vous annoncer la présence de trois animatrices. Cécile Vachebrot, qui est à côté de moi, Jacqueline Tornet, qui malheureusement est malade et qui ne peut pas nous rejoindre, et nous regrettons beaucoup son absence, et moi-même. Nous avons, entre nous, au moment de la préparation de cet atelier, décidé de nous partager la tâche en fonction de nos affinités et nos compétences. C'est-à-dire que je vous parlerai pour ma part des jeux, et nous commencerons par là, et j'essaierai de me centrer, comme le titre l'indiquait, sur la petite enfance, et Cécile Vachebrot, tout à l'heure, parlera des livres pour les enfants. Alors, nous avons prévu de procéder de la manière suivante, s'il y a une objection, ben, vous le direz, c'est-à-dire vous faire un petit exposé introductif, mais qu'on essaiera de rendre aussi bref que possible, c'est-à-dire d'une vingtaine de minutes chacune. Et ensuite, alors, de faire place à une discussion à laquelle, bien entendu, vous ne manquerez pas de participer. Vous êtes d'accord avec cette manière de procéder? Pas d'objection. Je commence donc sur les jeux pour la petite enfance. Le terme jeu, c'est un terme très vaste, mais je vais parler tout d'abord... essayer de me centrer sur les jeux en tant qu'objet, en tant que jouet, support du jeu de l'enfant. On verra tout à l'heure dans l'entretien si on peut élargir le propos. Le thème général, vers une éducation non sexiste, m'amène à m'interroger d'entrée si le jouet ou le matériel pour le jeu, pour les jeunes enfants, est, dans certains cas, un matériel qu'on peut considérer comme sexiste, c'est-à-dire qui prend en compte une différence réelle ou supposée, qui la traduit en termes de plus et de moins, en termes d'avantages et de désavantages, et qui peut-être, par un biais ou un autre, cherche à en tirer parti. Il y a là autour tout un discours traditionnel qui est, au fond, le jouet ou le matériel de jeu comme moyen de conditionner la personne. C'est ressenti de manière positive ou de manière négative. J'aimerais juste vous lire deux textes parce que je les trouve assez amusants à certains égards. L'un, c'est une citation de Victor Hugo, Les Misérables, qui est apparu dans un ouvrage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Idées reçues sur les femmes, qui est un ouvrage assez amusant. Et voilà ce qu'écrivait Victor Hugo. « Comme les oiseaux font un nid avec tout, les enfants font une poupée avec n'importe quoi. » Pendant qu'Éponine et Azelma emmaillotaient le chat, Cosette, de son côté, avait emmailloté le sabre. Cela fait, elle l'avait couché sur ses bras et elle chantait doucement pour l'endormir. La poupée est un des plus impérieux besoins et en même temps un des plus charmants instincts de l'enfance féminine. Alors vous constatez là le glissement. Hein? Dans la première phrase, c'était « les enfants font une poupée avec n'importe quoi ». Maintenant, c'est un des plus charmants instincts de l'enfance féminine. Soigner, vêtir, parer, habiller, déshabiller, rhabiller, enseigner, un peu gronder, se figurer que quelque chose est quelqu'un, tout l'avenir de la femme est là. Tout en rêvant, tout en jasant, tout en faisant de petits trousseaux et de petites layettes, tout en cousant de petites robes, de petits corsages, de petites brassières, l'enfant devient une jeune fille, la jeune fille devient une grande fille, la grande fille devient femme, le premier enfant continue la dernière poupée. Une petite fille sans poupée est à peu près aussi malheureuse et tout à fait aussi impossible qu'une femme sans enfant. Cosette était donc fait une poupée avec le sabre. Avec le sabre, oui, c'est tout ce qu'elle avait à disposition. Hein. Un sabre. Plus près de nous, et peut-être moins anecdotique, Roland Barthes, dans Mythologie, qui est apparu en 1957, parle des jouets. C'est un texte d'ailleurs assez connu. Et il condamne le côté mimétique et reproducteur du jouet. Il dit, par exemple, le jouet français signifie toujours quelque chose. Et ce quelque chose est toujours entièrement socialisé. On y cite des jouets qui représentent l'armée, la radio, la médecine, la coiffure, les transports, etc. Que les jouets français préfigurent littéralement l'univers des fonctions adultes ne peut évidemment que préparer l'enfant à les accepter toutes, donc toutes les fonctions adultes. Ce n'est pas tant d'ailleurs l'imitation qui est signe d'abdication que sa littéralité. Il vise là les jouets qui reproduisent de manière très minutieuse la réalité des objets de la vie adulte. Et il cite ensuite le problème par rapport à la petite fille. On peut par là préparer la petite fille à la causalité ménagère, la conditionner à son futur rôle de mère. Devant cet univers d'objets fidèles et compliqués, l'enfant ne peut se constituer qu'en propriétaire, en usager, jamais en créateur. Il n'invente pas le monde, il l'utilise. Donc le jouet serait porteur de cette reproduction des rôles, des fonctions sociales et des attitudes, et l'enfant n'aurait pas de choix, ne pourrait pas être créateur face aux jouets. C'est une vision que peu ou prou nous partageons tous, et notre agacement devant certains aspirateurs et machines à laver modèle réduit est là sans doute pour en témoigner. Je crois néanmoins qu'il y a un certain malentendu là autour. Le jouet n'est pas égal au jeu, ou le jeu n'est pas réductible au jouet. Je pense pour ma part que le jouet ne conditionne que très partiellement le jeu. Le jeu, c'est autre chose que le jouet. Le jeu, c'est une aspiration de l'enfant, c'est un mouvement de l'enfant profondément lié à son développement, qui est un mouvement d'exploration, qui est un mouvement de découverte de soi, qui est un mouvement de découverte de l'autre, et puis parfois qui est simple divertissement. Hein. Mais le jouet est utilisé par le jeu, et c'est pas l'inverse qui se passe, c'est pas le jeu qui crée le jouet. Hein. Il faut, pour qu'un jouet soit dans un jeu, qu'il soit joué par l'enfant, il faut qu'il y ait auparavant quelque chose dans l'enfant qui ait l'attitude ludique. Et ceux d'entre nous qui ont des enfants savent le nombre de jouets qui ne sont pratiquement jamais utilisés, hein, qui passaient le moment de la nouveauté, de l'attrait du neuf, sont des choses mortes qui n'entrent jamais dans le jeu des enfants. Et savent aussi le nombre d'objets non prévus pour le jeu qui, eux, interviennent fréquemment dans le jeu des enfants. Donc les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'on le croit parfois en disant « mais le jouet, c'est un moyen de conditionnement ». En donnant aux petites filles des dinettes et des cuisinières, des aspirateurs, on en fait de futures ménagères. Et en donnant aux petits garçons des mitraillettes modèle réduit, on en fait de futurs guerriers. Les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Mais continuons de regarder du côté du jouet. Il est clair que le jouet n'est pas neutre. Hein. Il y a des jouets qui sont conçus, pensés ou qui suscitent des images garçons, des images filles. Et il y a des jouets dont tout le monde est d'accord qu'ils conviennent, ils sont adéquats pour les deux sexes. Si vous regardez, et on le fera tout à l'heure, les catalogues de jouets, c'est tout à fait implicite dans le classement des jeux qu'ils font. Il y a des pages pour les garçons, il y a des pages pour les filles, il y a des pages pour tout le monde. Est-ce que ça signifie qu'il peut y avoir, par rapport aux jouets, une attitude sexiste ? L'attitude sexiste consisterait à attribuer aux garçons un matériel précis, aux filles un matériel précis, et empêcher les uns et les autres d'aller cueillir, pêcher ou de recevoir des éléments qui appartiennent à l'autre sexe. Alors ça, c'est sûrement un modèle qui a été très prégnant à une certaine époque et qu'il reste en partie dans la tête de certaines personnes et peut-être dans la tête de certains marchands. Il m'a paru plus adéquat de vous apporter des catalogues, d'abord parce que c'est la saison, et puis ensuite parce que c'est infiniment plus maniable. C'est les catalogues qu'on a reçus à Lausanne dans les boîtes aux lettres ces derniers jours. Hein. Celui-ci, des jouets Weber, me paraît véhiculer une image relativement, même tout à fait à certains égards, sexiste du jeu et du jouet. C'est-à-dire que le classement qu'on retrouve dans tous ces catalogues est renforcé par des photos d'enfants qui sont mises en rapport avec les jouets. Alors, à la page des poupées, des trousses de coiffure, etc., vous avez une petite fille, je le ferai circuler tout à l'heure, qui est très petite fille, hein, une petite fille en robe, une petite fille mignonne, et qui tient dans sa main, je ne sais pas trop quoi, un sèche-cheveux ou une brosse. À la page des jouets supposés pour garçons, eh ben, vous avez un petit garçon, bien petit garçon, hein, avec un pantalon foncé, un pull vert, pas d'erreur, hein, on ne peut pas se tromper. Les choses sont peut-être encore plus pernicieuses, et là où on pourrait être choqué, c'est que par rapport à certains jeux intéressants, ici, enfin intéressants, supposés développer l'intelligence, c'est des bêtises, ici un jeu de lettres, c'est un garçon, hein. Y a un jeu de peinture sur un chevalet, c'est un garçon aussi. Un jeu d'imprimerie, c'est un garçon. Il y a des instruments de musique, trois garçons et une fille. Hein. Tout ce qui est un peu créatif, c'est plutôt pour les garçons et pas pour les filles. Hein. Autre exemple, c'est un petit catalogue qui, lui, ne présente pas des photos d'enfants, mais des petits dessins, d'ailleurs assez hideux, où l'on voit des enfants, garçons et filles, en train de jouer. Et en le feuilletant, vous constaterez que le petit garçon est présenté dans des postures très diverses. Hein. Il est souvent à plat ventre ou accroupi. Enfin, il semble avoir une grande liberté de mouvement. Il paraît aussi parfois très, très actif, très dynamique et très content d'être là. Il y a des images où on le voit rire aux éclats. Il y a des images où on voit tirer la langue parce qu'il se donne tout entier dans son jeu. La petite fille, on la voit à deux reprises, comme ça, avec le doigt sur la bouche, un peu benette, un peu bornée. Bon, je n'étais pas très heureuse de voir ça. Donc, cette vision, il y a des choses pour les garçons, il y a des choses pour les filles. Et puis,
aussi. La page maître de l'univers pour les garçons et ménage pour les filles.
Cette manière de considérer les choses, il y a des choses pour les uns, il y a des choses pour les autres, et puis quand même ce qui est plus créatif et qui implique une activité plus grande, c'est plutôt pour les garçons, existe encore. Donc il y a certainement une attitude sexiste par rapport aux jouets. Il pourrait y avoir une attitude antisexiste qui prendrait le contre-pied et qui consisterait à supprimer ce qui a une connotation par trop liée au sexe. Plus de dinettes, plus d'aspirateurs. Quand on fait des poupées, on en ferait la moitié avec un sexe de garçon. Bon, ces poupées existent, mais elles sont très peu nombreuses. La moitié qui ressemble à une petite fille, etc. Cette attitude-là, dans la réalisation, dans la concrétisation, dans la fabrication des jouets, elle est très peu probable. Parce que le jouet, c'est un marché. Et que le jouet va être reproducteur des stéréotypes et des idées ambiantes. On va fabriquer ce qui se vend, c'est-à-dire ce qui est dans la tête des adultes. La particularité du jouet, pour les jeunes enfants en tout cas, étant que les consommateurs ne sont pas les acheteurs. Il y a un décalage et du coup, les réels besoins des enfants en matière de jouets ne sont peut-être pas ceux qui s'expriment par le marché. Ce qui s'exprime, c'est les idées des adultes par rapport à ce que l'enfant doit avoir pour jouer. Donc, une attitude antisexiste dont on peut penser ce qu'on veut, elle serait peut-être pas très adéquate ou pas très riche, est peu probable dans ce domaine. Alors, que serait l'attitude non sexiste ? Eh bien, c'est l'attitude qui consisterait à mettre à disposition de l'enfant, garçon ou fille, les jouets qui correspondent à son âge, à ses goûts, à ses besoins et à ses manières de jouer, qui sont peut-être différentes selon qu'il est garçon ou fille, mais qui sont certainement différentes selon son individualité. D'un enfant à l'autre, le jeu varie relativement considérablement. Donc, il consisterait à ne pas mettre d'étiquette sur un matériel, mais à l'offrir, à le proposer aux enfants. Et toujours, en faisant cette démarche extrêmement simple qui consiste à feuilleter des catalogues, si l'on prend par exemple celui-ci, c'est aussi un catalogue tout récent, ces auteurs ont opté alors pour la traditionnelle classification entre différents types de jouets, mais ont fait se promener dans le catalogue un petit personnage comme ça, qui a une espèce de grande combinaison pyjama rouge, un bonnet rouge à gros pompons marrons qui évoque un peu le Père Noël, mais dont on ne sait pas en fait si c'est un garçon ou une fille, hein. Et on le retrouve à presque toutes les pages, dans toutes sortes de postures et d'attitudes parfois amusantes, garçon ou fille. Un petit effet sournois, c'est que dans les pages poupées, il n'a pas de bonnet. On ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. C'est un enfant qui a des cheveux courts, blonds. Bon. Mais le bonnet est loin, n'est plus là, dans les jeux vraiment très filles, qui sont les deux pages de poupées. C'est assez amusant à constater. Et puis, il y a des catalogues alors qui présentent, bon, je les laisse à disposition, c'est peut-être pas utile de le citer, qui présentent simplement les jouets, sans aucune image d'enfant, garçon ou fille, et même pour celui-là, qui est en fait une espèce de grande page, grande affiche, avec un classement beaucoup moins formel et beaucoup moins arrêté que dans les autres que je vous ai fait passer. Donc il y a certainement une variété d'attitudes et il y a certainement des aspects sexistes, en tout cas dans le marché du jouet. Mais peut-être qu'il faut essayer de se livrer à une analyse un peu plus fine pour voir ce qu'est le jouet et comment les choses se présentent, aussi par rapport aux différents âges. Si l'on prend les jouets pour les très jeunes enfants, pour les enfants jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, on peut dire, je crois légitimement, qu'il n'y a guère de différence garçon-fille, qu'il y a en fait un matériel assez neutre. Ce sont ces jouets de plastique qui parfois donnent lieu à des emboîtements. Ce sont des objets à tirer, à traîner derrière soi. Ce sont des objets qui roulent, sur lesquels on s'assoit pour les faire avancer. Ce sont les animaux en peluche, etc. Oui, véritablement, les différences sont fort peu marquées. Et c'est aussi peut-être dans cette catégorie d'âge que l'on trouve les jouets les mieux étudiés. Je pense à certains jouets comme les jouets Fisher-Price, par exemple, qui sont faits de manière quasi expérimentale. C'est bien simple à expliquer, c'est que les enfants de cet âge sont quand même loin des adultes. L'adulte peut difficilement se projeter dans le jeu d'un enfant d'un an, alors qu'il peut se projeter dans le jeu d'un enfant de 5 ans. Donc l'adulte aura des attitudes qui sont peut-être plus ouvertes par rapport aux jouets pour le tout petit, parce que c'est un monde qui lui est un peu inconnu. Tandis que par rapport à des enfants plus grands, l'adulte a l'impression qu'il sait, puisqu'il a des souvenirs et qu'il a des opinions. Le panorama, quand on aborde les jouets pour les enfants entre, disons, 2 ans et demi et 6-7 ans, est alors complètement différent. C'est peut-être à cet âge-là qu'on a, de la manière la plus marquée, des jouets pour les filles, tout ce qui tourne autour du ménage. Je dis pour les filles parce que c'est comme ça qu'on l'entend d'ordinaire, c'est pas comme ça dans ma tête. Des jouets pour les garçons, tout ce qui roule, tout ce qui est véhicule, et un certain nombre de jouets neutres, comme des jeux de construction. Par exemple, les Lego, qui sont très utilisés à cet âge-là, au départ, c'est un jeu qui est investi aussi bien par les filles que par les garçons. Curieusement, vous savez que la firme Lego, qui a développé les briques Lego pendant longtemps, a éprouvé le besoin à un certain moment de différencier et de faire des Lego pour les filles. Vous pouvez monter toute une petite maison, les choses pour meubler la maison de poupées, etc. Mais ça va jusqu'au bouquet de fleurs qu'on pose sur la commode. Et des Lego pour les garçons, on construit des choses qui roulent, des trains, des voitures, etc. Et là, comme si le marché, finalement, impose peut-être ou rend attrayant la construction de la réalisation de ce type d'objet que les adultes attribueront à des filles ou à des garçons. On trouve le reflet de cette vocation du jouet entre guillemets dans la tête des adultes sur les emballages très souvent. Hein. L'emballage du garage montre un petit garçon qui joue. L'emballage de la maison de poupée montre une petite fille. Certains jeux, je pense à des jeux électroniques comme le Bordy Mini qu'on utilise déjà avec des petits, montrent alors filles et garçons. Même dans des jeux pour lesquels on se dirait bah, finalement ça doit intéresser autant les garçons que les filles, un jouet Fisher-Price assez connu qui est l'école a sur la boîte la photo d'une fille. Toujours chez Fisher-Price, il y a une très belle et récente pompe à essence, il y a un garçon. Donc je crois que non seulement on développe un matériel qui se réfère à des images socialement chargées de activité femme, activité homme, mais on renforce cela par le matériel de vente, certains catalogues et en tout cas les boîtes des jouets. Ces jouets qui sont les supports des activités traditionnellement attribués aux femmes ou aux hommes, c'est normal qu'ils existent à cet âge-là en très grand nombre, parce qu'ils correspondent quand même à un intérêt ou à un goût très vif qu'ont les enfants de cet âge, entre 3 et 6-7 ans, pour imiter, reproduire et varier, inventer autour des activités des adultes. Donc ils correspondent bel et bien à un intérêt vif des enfants pour ce type de matériel. Ils correspondent aussi, je crois, mais on pourra discuter de ça tout à l'heure, à des choix majoritaires des filles pour ce qui est support d'activités considérées comme féminines et des choix majoritaires des garçons pour ce qui est support d'activités masculines, parce qu'il y a à cet âge-là tout un travail de découverte de soi et de découverte du monde, c'est-à-dire de découverte de soi, petite fille, dans un monde où les femmes jouent un certain rôle, ou de découverte de soi, petit garçon, dans un monde où l'image qu'on a des hommes n'est pas semblable à celle qu'on a des femmes. Donc il y a tout un mécanisme qui tourne autour de ce qu'on appelle l'identification, mais qui est peut-être un peu plus complexe que cela, qui est aussi un mécanisme de découverte de l'environnement social, qui fait que les choix des filles et des garçons sont différents à cet âge-là, et tout à l'heure je pourrais vous donner des indications plus précises. Mais toutes les petites filles utilisent aussi et souhaitent utiliser du matériel garçon, entre guillemets, voiture, garage, marteau, etc. Parce que la découverte du monde, c'est pas seulement la découverte d'une partie du monde quand on a 3 ans, 4 ans ou 5 ans, c'est la découverte de tout, même si on cherche davantage ou si on creuse davantage du côté de ce qui vous ressemble ou du côté de ce qu'on imagine que l'on sera. Et tous les petits garçons utilisent une fois ou l'autre des poupées, la dinette, le ménage, peut-être encore plus que les petites filles n'utilisent du matériel garçon, parce que les adultes actifs qu'ils voient, c'est plutôt dans ce secteur des activités quotidiennes des femmes qu'ils les voient. Donc il y a une double démarche chez l'enfant de cet âge, qui est une démarche de qui suis-je en général, et qui suis-je en tant que garçon, qui suis-je en tant que fille, et qu'est le monde qui m'entoure, et qui postule que des jouets pour garçons et pour filles, pour utiliser cette vieille classification pratique, doivent exister, seront utilisés par les enfants selon qu'ils sont garçons ou selon qu'ils sont filles, et seront également utilisés par tous les enfants dans une démarche d'exploration et de découverte. Et puis, il faut citer des jouets qui parfois suscitent des réactions plus vives. C'est les jouets qui mettent fortement en évidence une image stéréotypée de l'homme ou de la femme. Les poupées Barbie, par exemple, les poupées garçons comme Ken ou Big Jim, Musclor, maintenant. Ces jouets-là intéressent les enfants à partir de 5-6 ans et les intéressent souvent assez longtemps encore pendant la période scolaire. On pourrait mettre dans le même lot du matériel assez différent les panoplies de cow-boys, d'infirmières, etc. Hein, on ne donne pas un costume de Zorro à une petite fille en général, hein, on donne à un garçon. Et puis la petite fille, elle aura droit à une panoplie d'infirmières. Je crois que ça fait partie de cette même démarche d'exploration de soi et d'exploration du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et quels sont les traits frappants? Ce qu'on peut regretter, en tout cas, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler, c'est l'aspect un peu caricatural de ce matériel. Et le fait qu'il véhicule, outre des stéréotypes, vraiment des images qui sont des images extrêmement grossières et peu élaborées. J'aimerais rapidement essayer de développer encore ce que pourraient être les nouveaux modèles, nouveaux moyens, qui sont le thème de ce colloque. Bien entendu, la première chose qui doit nous arrêter, c'est la question que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises du choix des jouets. Il est clair que si l'on veut dépasser des attitudes sexistes, conscientes ou non d'ailleurs, cela signifie que l'enfant doit être laissé tout à fait libre de son choix face aux jouets ou face aux objets pour jouer. À cet égard, la situation est peut-être pas aussi fermée qu'on pourrait l'imaginer. Je me suis livrée à un sondage auprès d'un certain nombre de ludothécaires de Suisse romande en leur envoyant un questionnaire. Une vingtaine d'entre elles ont bien voulu répondre, ce qui implique quand même un assez grand nombre d'enfants et de parents. Et une des questions que je leur avais posées, c'était qu'est-ce qui se passe quand une petite fille choisit un jouet de garçon, entre guillemets, quelle est l'attitude des parents, et qu'est-ce qui se passe quand un petit garçon choisit un jouet de fille. Alors, les réponses sont remarquablement concordantes. Il n'y a que très exceptionnellement un refus. C'est rare, disent-elles, pour certaines ça n'arrive jamais, pour certaines ça arrive exceptionnellement, qu'un parent dise non, c'est pas pour toi, tu prends pas ça. C'est par contre extrêmement fréquent, et c'est ce qui se passe le plus souvent, que le parent, c'est le plus souvent la mère, demande à l'enfant, garçon ou fille, hein, qui fait ce choix non conforme à son sexe, demande à l'enfant de confirmer ce choix. Hein. Est-ce que c'est bien ce que tu veux? Est-ce que tu es sûr que tu veux ça? Est-ce que tu t'amuseras avec ça? Est-ce que tu préférerais pas autre chose? Une espèce de manœuvre de l'adulte pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus adéquat? Mais la conclusion, c'est que la plupart du temps, en fait, l'enfant peut maintenir son choix. Savoir s'il refera la fois suivante le même choix, alors ça c'est autre chose, hein, parce qu'il y a un procédé assez fort pour le diriger vers quelque chose. Ça se passe donc comme si l'image, il ne faut pas quand même priver les petits garçons de poupées et priver les petites filles de camions, avait passé dans les têtes, mais qu'il subsiste quand même quelques réticences. Est-ce que c'est bien un bon choix? Est-ce que c'est bien ça qu'il veut? Mais ce qui est peut-être plus important, et c'est là que c'est là-dessus que je conclurai, c'est sans doute la place que l'adulte fait au jeu de l'enfant. Et là, on est fondé à penser que l'adulte n'a pas la même attitude face au jeu de la fille que face au jeu du garçon. Les jeux des petites filles sont toujours décrits dans la littérature comme plus calmes, plus tranquilles, plus paisibles, moins variables, moins explosifs, tout ce que vous voudrez. Il y a probablement là un conditionnement assez efficace qui est opéré par l'adulte. Il est très vraisemblable que les adultes offrent aux petites filles moins d'espace pour jouer, tolèrent moins leurs déplacements, sont plus restrictifs quant aux manifestations dérangeantes, comme le bruit, comme le désordre, comme la saleté, et sont plus restrictifs aussi par rapport au temps ou à la liberté d'activité par rapport aux filles. C'est une chose très connue dans l'histoire de l'éducation des filles qu'on a rempli beaucoup plus pour les filles que pour les garçons le temps dont elles disposaient. Les histoires de l'éducation des filles qui parlent de la situation mais au siècle passé, il y a encore une centaine d'années, montrent comment ces petites filles sont toujours là en train de coudre, de broder. Même quand elles jouent à la poupée, il faut qu'elles lavent les habits et qu'elles les décorent quand il ne faut pas qu'elles les cousent elles-mêmes. Hein. Donc il y a souvent pour le jeu de la petite fille un lien qui est fait avec le travail et puis peut-être une restriction plus grande. Bien sûr, c'est en train de se modifier. On n'est plus dans la situation du 19e siècle, mais n'empêche que peut-être que la petite fille est beaucoup plus vite et plus largement que son frère chargée d'un certain nombre de tâches ménagères ou de collaborations ménagères qui, bien sûr, empiètent sur le jeu. Il est possible que, parce qu'il y a peut-être une justice à les savoir, que les choses se modifient à la période de l'âge scolaire et au début de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on laisse à ce moment-là plus de temps aux filles et qu'on remplisse davantage le temps des garçons avec sport et études. Hein, parce que c'est important qu'un garçon réussisse, c'est important qu'il ait des activités sportives, sociales, etc. Alors que la marge de liberté de la petite fille est, dans certains milieux en tout cas, peut-être un peu plus grande à partir de 7, 8 ou 9 ans. Mais il est probable qu'il y a un décalage qui subsiste, un décalage historique et qui pèse encore sur les filles. Ariès, quand il fait l'histoire de l'apparition du sentiment de l'enfance dans nos sociétés occidentales, dit que le sentiment de l'enfance s'est éveillé d'abord au profit des garçons, tandis que les filles persistèrent longtemps dans le mode de vie traditionnel qui les confondait avec les adultes. Les filles ont accédé à l'enfance, donc au jeu et à la liberté du jeu de l'enfant, plus tard, que les garçons, et sans doute qu'il y a un certain poids qui reste de cela.
Donc je pense à la possibilité de pouvoir jouer.
Non, c'est-à-dire que plutôt on a pensé que le garçon était un enfant et qu'un enfant c'est différent de l'adulte. Hein. Et la petite fille, elle restait encore conforme, c'est encore un adulte modèle réduit. Oui. La caricature de cela, c'est ce que dit Rousseau sur l'éducation. Hein. Il insiste beaucoup sur le fait qu'Émile, il doit être éduqué d'une manière très spécifique parce que c'est un enfant, puis il doit être heureux, puis il doit vivre dans le présent. Et puis Sophie, qui liquide d'ailleurs en très peu de pages par rapport au nombre de celles qu'il a consacrées au garçon. Alors elle doit être contrainte de bonheur parce que tout son sort est là. Et il y a une antinomie entre ces deux modèles d'éducation qui est caricaturale, dont on se demande comment il ne l'avait pas perçue, mais ce qui montre bien qu'elle était dans l'esprit du temps. Donc, et ce sera ma conclusion, nouveau modèle, nouveau moyen, c'est surtout, et ça passe probablement par là, nouvelle attitude ou attitude plus consciente, plus réfléchie de l'adulte par rapport au jeu de l'enfant, qu'il soit un garçon ou qu'il soit une fille. Et puis, à partir de là, peut-être que la possibilité de jouer serait donnée de manière égale aux garçons et aux filles. L'usage qu'ils en feraient serait sûrement pas le même d'ailleurs. Et que tout ce qui est matériel de jeu, encore marqué de ces attitudes sexistes, évoluerait, ou en tout cas serait proposé aux enfants de manière analogue.
Voilà. Avec les livres, en précisant d'abord que je n'ai pas vraiment considéré les livres pour la petite enfance, pour deux raisons. La première, c'est que les livres destinés aux tout-petits sont essentiellement des livres d'images, sans texte, et qui ont pour but de donner l'habitude des formes, de donner une certaine familiarité avec les couleurs, le vocabulaire. Et ce sont des livres qu'on pourrait dire indifférenciés, c'est-à-dire que l'intention n'est pas de former au rôle suivant de la petite fille et du petit garçon. Et d'autre part, une deuxième raison, c'est que on peut considérer que d'une certaine façon, le livre prend le relais du jeu. Et que, à partir d'un certain âge, l'enfant commence à lire plus et à jouer moins par conséquent. La troisième raison que j'ai oubliée, mais qui est aussi raison essentielle, c'est que j'ai également considéré qu'il était plus intéressant de s'en tenir à des textes que l'enfant pouvait lire lui-même. Bon, on a dépassé depuis quelques années ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire mettre au dos des livres pour de 2 à 5 ans, de 6 à 8 ans, de 8 à 10 ans. Mais il est quand même vrai qu'il y a une certaine cible qui est visée par les auteurs ou par les éditeurs de livres pour enfants, et que cette cible prend les enfants entre tel et tel âge.
Ça existe encore.
Oui, ça existe encore. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on le fait moins systématiquement et qu'on considère que c'est pas forcément bon de mettre au dos de la couverture que c'est pour tel ou tel âge. On laisse une liberté de manœuvre plus grande. Enfin bon, ça, c'est une autre question. Alors évidemment, les livres commencent à devenir intéressants et pertinents pour nous à partir du moment où il y a des personnages et à partir du moment où il y a histoire, et donc forcément phénomène d'identification à ces personnages et différenciation fille-garçon. Je voudrais rappeler très brièvement les conclusions d'Elena Bellotti dans son livre « Du côté des petites filles » qui a une douzaine d'années, qui a été publié en 1973, simplement pour partir de là et pour ne pas s'en tenir à une simple constatation de l'existence du sexisme dans les livres pour enfants. Alors ses conclusions, très brièvement et très grossièrement, c'est que dans les livres pour enfants, il y a le personnage de la mère qui est une mère type, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui s'occupe de la maison, qui est là pour servir. Il a été question de ça hier à la conférence. Et d'autre part, les filles sont souvent obligées de s'identifier au personnage masculin parce qu'il n'y a pas de personnage féminin suffisamment actif et suffisamment valorisant auquel elles puissent s'identifier. Ce qui est d'autant plus paradoxal que d'après les statistiques sur la lecture, les filles lisent plus que les garçons. Donc on a ce décalage qui est important et qui va se creuser encore dans la vie plus tard. C'est-à-dire que d'une part, les consommateurs sont des consommatrices, en fait, les lecteurs sont des lectrices, et que d'autre part, les personnages sont les héros sont plutôt des garçons. Alors c'est pas entièrement vrai, et c'est le premier point que je voudrais développer, mais assez rapidement. Il y a des livres dont les héroïnes sont des héroïnes, enfin on est un peu coincé par le vocabulaire en français, dont les personnages principaux sont des filles, et en particulier des séries. Dans les livres de séries, il y a plus souvent des personnages féminins, de petites filles qui sont personnages principaux, que des personnages de garçons. Comme si les personnages féminins pouvaient exister en tant que héros, enfin héroïnes, mais de façon stéréotypée. Alors le plus représentatif, on pourra revenir plus en détail là-dessus si vous voulez tout à l'heure, c'est cette série des Martines qui date des années 60, mais qui existe encore et qui est un grand succès éditorial. Pour vous donner une idée, c'est traduit dans une bonne vingtaine de langues, aussi bien en anglais qu'en espagnol, qu'en finnois, enfin partout. En Grèce, dans le monde entier, on ne peut pas échapper à ça. Et voilà, c'est toute la liste des pays qui est signalée par une accolade dans lesquels les Martines sont traduites. Et toujours rééditées avec ces mêmes dessins des années 60, donc de la petite fille bien traditionnelle. Alors j'ai pris celui-là, mais les autres sont exactement faits sur le même modèle. Martine à la maison, et c'est l'histoire d'une journée de Martine. Maman est partie, et Donc Martine s'occupe et occupe son frère, mais son frère n'est qu'un assistant dans ses tâches ménagères à elle. Et tout son but, son objectif, c'est que la maison soit bien propre et le repas prêt à la rentrée, quand maman va rentrer. Et il y a une phrase assez... Oui, oui, bien sûr.
Là, c'est... Et ce qu'on lui fait faire,
c'est fou. C'est délirant.
Qualifié.
Oui, oui, bien sûr. Il y en a un qui est encore pire, c'est Martine, je ne sais plus comment il s'appelle, fait la cuisine ou quelque chose comme ça. Oui, Martine fait la cuisine, où il y a des recettes. Comment faire les crêpes, comment faire la confiture. Et elle prépare des repas pour ses grands-parents qui lui ont offert un livre de cuisine. Et elle fait du poisson. Et il y a marqué, toi aussi, tu peux faire, en s'adressant à la lectrice, tu peux faire la même chose, tu peux essayer de faire les crêpes, le poisson, la confiture. Et...
L'étonnant, c'est que ce ne sont pas des fictions, c'est une illustration de la vie quotidienne.
Oui.
Avec des stéréotypes bourgeois.
C'est ça.
Il y a Martine fait de l'équitation, voyez-vous.
Ouais. Oui, elle monte à cheval, elle va en avion, elle va. Il y a un Martine pour chaque geste de la vie quotidienne. Non, non, c'est des repères pour la petite fille, qu'elle sache bien comment il faut se comporter dans tel ou tel domaine. Et il y a une phrase que j'aimerais retrouver dans le texte parce que elle est significative et c'est finalement le but de Martine. C'est le facteur qui arrive. Non, c'est pas le facteur, c'est le laitier. Alors le laitier arrive, donc. Vous voyez, en plus, la présence du laitier dans cet intérieur bourgeois, enfin, c'est, je sais pas, complètement aberrant. Et on entend sa grosse voix qui résonne jusqu'au fond du couloir. « Maman n'est pas là, non, c'est moi qui la remplace », répond Martine. Bon, c'est pas la peine de chercher plus loin.
La limite, les filles qui viennent en Suisse dans les pensionnats, lire Émile Martine, elles n'ont pas besoin de venir dans les pensionnats.
Effectivement. Alors toujours dans les séries, et pour avancer un petit peu dans le développement, il y a une série qui s'adresse à des filles déjà un petit peu plus âgées, et à des garçons aussi d'ailleurs qui la lisent, qui est la série des Alice dans la Bibliothèque Verte. Alice, détective américaine des années 30, elle est née dans les années 30, et qui elle aussi est toujours actuelle, toujours rééditée. Ça fait le quart des ventes de toute la Bibliothèque Verte. Donc c'est énorme comme succès. Et si je vous en parle là en débordant un peu de la petite enfance, c'est que dans Alice, on peut repérer ce qu'on pourrait appeler le sexisme masqué. C'est-à-dire qu'apparemment, bon, Alice est l'héroïne de la série. Alice est une fille active. Elle a 17 ans. Elle a son permis de conduire. Dès les premiers Alice, donc dans les années 30, ce qui est quand même assez remarquable, elle a sa voiture, elle est donc indépendante et émancipée d'une certaine façon, puis elle se lance dans des aventures, elle résout des énigmes que même la police n'arrive pas à résoudre. Donc c'est quelqu'un de très valorisé. Et c'est un modèle valorisant à laquelle la fille qui lit Alice peut s'identifier. Sans...
Oui. Je vais peut-être vous dire, mais... C'est un peu expliqué dans les livres par le fait qu'elle n'a pas de mère.
Oui, alors quand on commence à regarder de plus près, il y a pas mal de choses qui déroutent et qui font penser que c'est du sexisme masqué, justement. Alors d'une part, la filiation se fait par le père. C'est-à-dire qu'Alice est détective, et pourquoi est-ce qu'elle est détective? C'est parce que, effectivement, sa mère est morte quand elle avait 3 ans. Et donc, toute l'éducation a été faite, d'une part, par la gouvernante qui a assuré tout le côté matériel, cuisine, éducation, ménagère. Alice est une parfaite ménagère. Et d'autre part, la filiation spirituelle, c'est le père. Et le père est avoué. Et en fait, Alice a débuté dans son métier de détective quand son père a commencé à lui parler un peu de ses affaires et à lui en confier. Bon, mais c'est pas tout. Alice travaille de façon totalement bénévole, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand le livre se termine, elle a résolu l'énigme, on lui propose de la payer, elle refuse toujours, en disant « mais non, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir ». Bon, et c'est vraiment le type même du travail féminin, ce travail bénévole, qui est aussi efficace, même plus efficace que le travail de la police, seulement la police est payée pour ça, son père est payé pour faire ce qu'il doit faire, mais elle fait mieux, mais elle n'est pas payée. Et elle n'est pas payée parce qu'elle refuse elle-même d'être payée. Bon, en plus, quand on l'interroge un peu, quand on la félicite, elle rougit. Donc elle sait rester modeste, enfin c'est quand même la fille idéale. Et d'autre part, non seulement elle rougit, mais elle dit « mais c'est pas moi, ça s'est trouvé comme ça, par hasard ». Et quand on lit après coup, parce qu'évidemment quand on est enfant, on se laisse porter par l'aventure, mais quand on relit après attentivement les Alice, on se rend compte qu'effectivement c'est pas de sa faute si elle trouve. C'est-à-dire qu'elle est là, il suffit qu'elle soit là, pour que aussitôt un voleur apparaisse et donc elle va le suivre. En fait, tout se fait comme par magie. C'est une baguette. C'est comme si elle avait une fée qui a sa baguette magique et sa seule présence fait que les choses se résolvent d'elles-mêmes.
C'est après ça aussi pour les êtres masculins d'enfants.
Alors effectivement, oui, oui. Bon, c'est peut-être aussi une caractéristique. Oui. Oui, c'est possible. C'est possible. Bon, en tout cas, le travail bénévole, ça c'est. Alors évidemment, c'est autre chose. Et le dernier point, c'est que, en fait, bon, Alice, je ne sais pas si tout le monde connaît, elle est accompagnée de deux amies, Bess et Marion, dont l'une est la fille type qui se bourre de gâteaux, qui a envie de sucreries tout le temps, et l'autre qui a des allures un petit peu masculines, de garçon manqué, qui est très active, très sportive. D'ailleurs, Marion, dans la version anglaise, s'appelle George, ce qui accentue l'ambiguïté. Et on peut dire que c'est un peu la part féminine et la part masculine d'Alice, enfin bon, très, très grossièrement. Et elle a un fiancé, enfin plus ou moins, très, très chaste et pur, mais qui s'appelle Ned, qui est étudiant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les aventures, Alice peut-être peut se permettre d'autant plus d'être active et d'entraîner ce garçon dans ses aventures, parce que finalement, lui est un peu falot à côté d'elle. Mais d'autant plus qu'on sait qu'une fois le livre terminé, tout reprend sa place, que c'était une aventure exceptionnelle, même si elle en a beaucoup, et qu'en fait, c'est bénévole, c'est en dehors de tout schéma de travail. Alice n'a absolument pas l'intention de devenir détective professionnelle, elle le répète, et c'est juste des échappées pour lui permettre de mieux réintégrer après le monde bien organisé selon les stéréotypes les plus traditionnels. Et qu'elle épouse Ned ou quelqu'un d'autre plus tard, en tout cas ce qui est sûr, c'est, même si c'est pas dit, tout le laisse entendre, c'est qu'elle épousera quelqu'un et que, bon, c'est juste comme ça, une année où elle peut se permettre une évasion qui n'est permise, enfin je répète, qui n'est vraiment permise que parce que c'est une évasion de ce monde traditionnel. Donc en fait, le sexisme est facile à repérer dans certains cas. Dans d'autres cas, ça prend des formes beaucoup plus insidieuses dans ce type de livre, en tout cas. Et ça prépare directement à un autre type de livres et de séries qui sont les Harlequins, mais ça, c'est une autre histoire. Et bon, mais enfin, c'est pas un hasard non plus que la littérature de séries, pour enfants comme pour adultes, s'adresse quand même avant tout aux petites filles et aux femmes pour bien leur montrer leur place et pour bien les faire rester à cette place. Alors évidemment, par réaction à ça, il y a un certain nombre de livres, surtout depuis les années 70, qui sont des livres antisexistes. Bon, j'en ai apporté un certain nombre, on pourrait faire un tour d'horizon rapide, mais disons que le défaut essentiel de ces livres, si leur qualité est de battre en brèche ces stéréotypes, c'est d'en installer d'autres à la place. Et on peut se demander finalement si un stéréotype n'en vaut pas un autre. Et quel genre de stéréotype ? Alors il y a un livre qui est un livre québécois des années, je crois que c'était 74-75. Voilà, le sexe faible. C'est destiné à des enfants. On peut se demander d'abord si ce type de... comment peut être reçu ce type de dessin, ce type de texte, de présentation. C'est du livre militant. Et ça, les qualités et les défauts du livre militant, en fait. Donc ça, c'est l'histoire de trois servantes, enfin de trois femmes, de trois filles, en fait, elles sont présentées presque comme des enfants, qui servent un monsieur qui est le patron. Il y a la servitude, enfin les classes sociales qui viennent aussi s'ajouter à ça, et qui se révoltent. Alors, bon, là, on peut peut-être pas parler de stéréotypes, mais en tout cas de choses qui sont fortement stéréotypées, si on peut parler jusqu'à employer le mot stéréotype. C'est-à-dire, est-ce qu'une histoire de ce genre est susceptible d'intéresser? Est-ce qu'il y a identification possible à un personnage? On a plus l'impression, dans ce type de livre, que c'est pas des histoires qui sont racontées, mais simplement une idée développée. Il y en a un autre que j'ai pas ici et qui est aux éditions des femmes. Je voudrais retrouver le titre et qui raconte une révolte de femmes aussi qui se passe. Oui, c'est ça, c'est l'histoire des sandwichs. Où il y a les hommes qui sont en train de faire la guerre et puis les femmes qui décident de s'en aller et qui se retrouvent encore une fois, bon, du côté de la paix, d'accord, de la nature, elles vont faire pousser des pommes, enfin pour la première fois. Et quel est, c'est pas celui-là? Oui, ben alors c'est pas, oui.
Elle va dans le camion où sont mis tous les sandwichs. C'est toute petite qu'elle voit tout ça.
Oui, oui, oui.
Je crois qu'en définitive, les femmes ne veulent plus faire le sandwich, mm-hmm. Donc elle coupe la dépendance des hommes par rapport à ça.
Oui, il y a celui-là, effectivement. Et il y a un autre, alors celui auquel je pensais, qui est le temps des pommes, où c'est un monde complètement aussi austère, industrialisé, un monde de guerre et de militarisme, et où les femmes en ont assez, et elles emmènent avec elles tous les enfants, qui sont orphelins et orphelines de guerre, et pour construire un autre monde. Seulement, on en arrive à un monde, bon, je vous parlais de ces pommes, ça s'appelle le temps des pommes, où pour la première fois on voit pousser des pommes, et on peut se demander où est la différence. Bon, c'est un petit peu provocateur ce que je dis, mais il y a un fond de vérité, je crois, entre ces filles qui rêvent de voir pousser des pommes, de manger des pommes et de faire de la compote de pommes, et les recettes qu'on donne à Martine sur comment faire des crêpes, comment faire du poisson, comment faire de la confiture. C'est en ce sens que je disais que le...